Bon, eh bien, bonjour à tous ce matin. Effectivement, je n'ai pas l'habitude de prendre le micro, mais là, vraiment, je peux dire qu'il m'a été évidemment vivement conseillé de dire ce que j'avais vraiment à cœur de dire depuis un moment, là, parce que j'ai eu dernièrement un songe qui a été venu. Et j'avoue qu'au début, je n'ai pas pris la chose très à cœur, parce que je me disais, oh, bah, c'est peut-être quelque chose que j'ai visualisé, puis sans plus. Mais là, je me suis vraiment rendu compte, après coup, que ça avait quand même une portée intéressante. Alors voilà comment ça se présentait. On était là, apparemment, tous à la maison, en train de s'activer pour vraiment déménager un tas de choses. Et bon, on avait beaucoup de choses, apparemment, qu'il fallait soit garder, soit véritablement emporter avec nous. Et on était, j'allais dire, dans l'activisme, mais c'est pas vraiment ça. Parce qu'en fait, on était tous joyeux de faire ce qu'on avait à faire. On faisait les choses avec entrain, enthousiasme. Et en fait, tout le monde ne se bousculait pas. Il n'y avait pas d'énervement, d'irritation, ni rien du tout. Donc, tout se passait très bien. Mais ce qu'il y avait, c'est que, bon, ben, évidemment, donc on avait un certain nombre de choses qu'on laissait. Mais en fait, on ne se rendait pas compte qu'on les laissait. On les laissait tout naturellement parce qu'elles ne nous servaient à rien. Et par contre, on a pris un certain nombre de choses. Alors, il y avait un frère et moi qui avions pris des choses particulièrement qu'on trouvait particulièrement bonnes pour nous. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Après, on continuait après à aider d'un côté et d'un autre. Et ça se faisait, en fait, j'ai remarqué en plusieurs étapes ce moyen d'enlever un certain nombre de choses. C'est-à-dire, en deux, trois ou quatre reprises, on enlevait finalement pas mal de choses. Et arrive un moment où bon ben on passait par la cuisine de la communauté pour vraiment le moment où il y avait le grand départ pour le grand voyage qu'on avait à faire. Donc on est sorti et une fois que la porte était fermée, à un moment donné, j'ai su qu'il y en avait qui étaient restés derrière la porte. Et le problème, c'est qu'effectivement, il y avait plein d'obscurité. Je me disais, misère, qu'est-ce que c'est? Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Et effectivement, bon ben, je me suis réveillé dans un premier temps là-dessus, et je me suis dit, mais alors Seigneur, est-ce que ça veut dire donc qu'il y a un grand départ qui serait le jour, finalement, du jour où on doit partir de cette terre, et qu'à ce moment-là, finalement, il y aurait des personnes qui seraient là? Je me suis, ça m'a, sur le moment, ça a interloqué. Et je me suis rendormi au bout d'un moment, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que les personnes qui étaient restées, il y en avait une, qui au départ est sortie et a en convié les autres à sortir avec elle. Et on voyait que tous étaient visiblement maintenant complètement épurés, véritablement retrouvés une certaine vitalité qu'au départ ils n'avaient plus. Et donc j'en ai retenu vraiment quelque chose de très important là-dessus, c'est qu'effectivement il faut vraiment qu'on veille sur ce jour où vraiment le Seigneur doit revenir. Et je me suis dit, c'est très très important, les uns les autres, de regarder ce qu'il y a d'important que nous devons prendre avec nous pour quand on doit avoir ce jour de départ. Parce que là, bon, évidemment, le symbole que je voyais, il y avait quoi? Du mobilier, des choses qu'on prenait, mais en fait, ça avait un sens beaucoup plus profond. C'est pas seulement prendre des chaises, prendre des choses qui nous intéressaient, mais c'était vraiment prendre des choses qui avaient une grande portée, étaient nécessaires pour nous. Et par contre, les choses qu'on laissait, ben, c'était tout simplement parce qu'elles n'avaient pas du tout de valeur, tout simplement. Et je me suis dit, c'est un encouragement tout ça à vraiment demeurer fidèle dans ce qui nous est donné tous les jours et prendre vraiment ce qu'il y a d'important. Et je me suis dit, c'est vraiment très important parce que le jour du Seigneur, comme on le sait, viendra au jour où nous n'y penserons pas. Et je me dis, tous les jours, mon Dieu, sonde vraiment mon cœur pour voir si je suis toujours sur la bonne voie, et si je n'y suis pas, conduis-moi dans la voie de l'éternité. C'est ça que je me dis toujours. Et je prie pour que chacune et chacun ici, ben, il en soit en fait de même, quoi. Que finalement, on ne soit pas des gens laissés pour compte, mais que Dieu tienne compte de toutes les bonnes choses qu'on a pu faire, et si possible, qu'on puisse encore faire maintenant. Voilà ce que j'avais finalement vraiment découvert qui était important de retenir tout ça. Voilà.
Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel en envoie la vie et la bénédiction. Aimez-vous les uns et les autres, comme Jésus vous a aussi aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le Seigneur nous a montré comment vivre le véritable amour. C'est en aimant le premier que nous pouvons nous aimer tous les jours. Et les autres, comme Jésus vous a aussi aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oh, quelle joie de vivre ensemble, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Pour avancer dans le monde, il est vivant, il est ressuscité. Les uns et les autres, comme Jésus vous a aussi aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimez-vous les uns et les autres, comme Jésus vous a aussi aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Je crois que ce songe de notre frère Dominique est authentique. Amen. Que Dieu te bénisse, Dominique, et de nous l'avoir dit. Je voudrais que nous fassions une lecture dans Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vendredi soir, je vous parlais du premier degré dans lequel nous avons tous vécu au début de notre existence dans ce monde mortel. On est né, on savait rien, etc. Je vous ai expliqué ces choses. Et puis, je vous ai parlé du deuxième degré dans lequel nous sommes entrés par la nouvelle naissance. Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'eau est le symbole de la parole. Nous naissons de Dieu par la puissance de la parole. La parole, c'est l'esprit. N'est-ce pas écrit? Et nous naissons d'eau et d'esprit. Je vous disais donc que toutes les qualités que nous développons dans ce deuxième degré, ça n'est pas la perfection. Ce ne sont que des éléments de transition. Nous évoluons vers la perfection. Dans le premier degré, toutes les évidences des cinq sens physiques se rapportent uniquement à la raison humaine. La raison humaine, c'est déjà quelque chose d'absolument phénoménal. Pas rien, la raison humaine. Mais quand même, il y a une opacité qui intercepte la vraie lumière. Nous avons été créés. Il y en a qui veulent même pas que nous ayons été créés. Vous voyez à quel point c'est idiot. Comment peut-on dire qu'il n'y a pas de créateur? Ah non, ce pied de micro là, il n'y a pas de créateur. Personne n'a fait. Ah, ma montre, c'est tous les rouages se sont mis en place d'un même coup, comme ça, et ils ont évolué petit à petit, puis ça fait une montre. Il n'y a pas d'horloger. Bon, quand on contemple les cieux, la terre, la nature, tout ça, et qu'on pense qu'il n'y a pas de créateur, c'est qu'on n'a pas vraiment réfléchi. Donc il y a une opacité qui nous empêche de voir ce Créateur, cette lumière, cette énergie, cette vie, ce Dieu. La raison humaine, elle comprend très confusément et elle ne peut transmettre que très faiblement, en fait, les œuvres et les paroles des prophètes, des apôtres et de Jésus lui-même. Ça, c'est sous le premier et le deuxième degré. Mes frères et sœurs, la vérité, c'est une révélation. Jésus est venu et il s'est révélé. Maintenant, il s'est révélé. Mais qui y a cru? Qui l'a reçu? Il a dit qui il était. Mais qui l'a cru? Qui l'a reçu? C'est ce que Ésaïe 53 pose comme question. La lumière est venue habiter parmi les hommes. Qui l'a reçu? Qui l'a cru? Et il s'est révélé. La révélation a été faite. La révélation, elle est donnée. Mais maintenant, il faut la prendre. N'oubliez pas que Jésus a recommandé à ses disciples de se garder du levain des pharisiens. Les pharisiens, c'est pas les parisiens, hein. C'était des religieux. Il dit, gardez-vous de ce levain. Le levain, c'est ce qui fait monter la pâte. C'est ce qui fait gonfler, ce qui fait enfler. Il disait clairement que le levain des pharisiens, c'était leur doctrine humaine concernant le sacré. Il dit, méfiez-vous de ça, ne touchez pas à ça, ne touchez pas à ces trucs-là. Et les siècles se sont écoulés, et ce levain est toujours à l'œuvre aujourd'hui, faisant enfler inutilement la vérité, à tel point qu'elle paraît même grotesque, elle est tellement enflée, ça paraît une idiotie. Parce que, mes frères et sœurs, en fait, la vérité, elle est simple. Et ce n'est qu'avec un cœur d'enfant qu'on peut l'accueillir. La révélation, elle est simple. Mais il faut avoir un cœur d'enfant pour l'accueillir. Quand Jésus était là sur cette terre, c'était un barbichu. Et il disait qu'il était le Fils de Dieu, le Messie, le Christ. Il fallait avoir un cœur d'enfant pour croire ça. Vous savez, l'homme est difficile, l'homme est dur de cœur, il est méchant. Ils ont vu des miracles extraordinaires, mais ils doutaient encore. Quand les Juifs ont vu tous les miracles que Moïse faisait, Moïse tourne le dos quelques jours pour aller sur la montagne du Sinaï. Qu'est-ce qu'il trouve à faire? Un veau d'or pour l'adorer. Bande d'abrutis. Ils ont vu, ils respectent rien. Ils voient les miracles. Ils voient l'œuvre de Dieu. Ils voient la puissance à l'œuvre. Ils voient qu'il y a un monde surnaturel qui agit. Pensez-vous que ça les remplit de respect? Non. Non. Ils triquitent. Il juge, il rejette. Ça, c'est le cœur de l'homme. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est avec un cœur d'enfant qu'on reçoit Jésus. La vie n'est compliquée que parce qu'on la complique. Alors vous allez me dire, oh, mais moi, c'est pas moi qui ai compliqué ma vie, c'est les autres. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. On la complique. On se met tous ensemble, puis on la rend bien compliquée. Les promesses de Dieu à ceux qui sont entrés dans le troisième degré, c'est-à-dire à ceux qui ont véritablement obéi et qui sont passés par ce renoncement par rapport aux œuvres de ténèbres, par rapport aux œuvres mortes, par rapport à ce que disait Dominique, ce qui n'est pas essentiel pour la vraie vie, qui ont renoncé à ça. Eh bien, ces promesses sont oui et amen, pour eux, pas pour les autres. Pour eux, oui, mais pas pour les autres. Dieu fait des promesses. Oui, alors Dieu a promis, mais il ne se passe rien. Oui, mais attends, il y a des degrés. Ce n'est pas pour tout le monde. Alors, vous avez entendu dire que Jésus est parti pour nous préparer une place. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. C'est bien. Il y a donc un endroit où quelque chose est construit. La Bible appelle cet endroit le ciel. Pourquoi elle appelle ça le ciel? Parce que pour les anciens, le ciel, comme pour nous encore, c'est ce qui dans la nature est le plus grand, le plus élevé, le plus... Ah, ça fait bouillonner l'imagination quand on se promène. Manu me parlait du Grand Nord, et puis qu'on voit les aurores boréales, et puis qu'on voit les étoiles, parce qu'elles sont toutes là, hein. Elles sont pas cachées par toute la pollution qu'on a par chez nous. C'est, on voit la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu se contemple dans la nature. Bon, s'ils en veulent pas, ils peuvent dire, c'est beau, on a acheté la carte postale. Là, il y en a, ils sont à ce niveau-là. Mais la Bible appelle le ciel, donc c'est pas vraiment dans le ciel. En réalité, c'est dans une autre dimension que Jésus est en train de nous préparer une demeure. dans une dimension que nos sens ne peuvent pas percevoir. Pour percevoir cette dimension, il nous faut la foi. Ah, nous y voilà encore. Il nous faut la foi, il nous faut croire qu'il y a une autre dimension, comme Jésus nous le dit. Vous êtes, il y a des gens qui sont de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes d'une autre dimension, vous êtes d'un autre monde, vous êtes d'ailleurs. Il y a un autre monde. Un monde parallèle, c'est un monde qu'on ne peut pas voir, mais il existe. Ben, personne n'est revenu. Si, Jésus est revenu. Pas que lui. Beaucoup d'autres gens sont revenus. Un petit jeune pour qui j'ai prié, qui était mort depuis 4 jours, est revenu. Ils savent, il y a beaucoup de témoignages maintenant de gens qui expliquent ce qui s'est passé quand ils ont... Philippe aussi est sorti de son corps, il a vécu ça, il sait, il y a autre chose. Personne n'est jamais revenu. Vous voulez le croire? Croyez-le. Moi je crois ce que Jésus dit et ce que les témoins qui ont vu, ont vu. La foi, il n'y a que ceux qui renoncent qui peuvent l'obtenir. Renoncer à quoi? À notre façon obstinément limitée de concevoir les choses. Mais vous savez, c'est une façon obstinément limitée, mais c'est déjà tellement grand de concevoir les choses sans Dieu. On peut concevoir les choses sans Dieu, c'est déjà tellement grand. Il y a tellement de choses. Je suis encore émerveillé quand je regarde mon iPhone 5. Je fais de la pub. C'est extraordinaire ce machin-là. C'est fantastique quand je regarde, quand je considère ces choses-là, mais... C'est magnifique ce que l'homme fait, ce qu'on peut faire, cette technologie extraordinaire qui sert pour la haute connerie humaine, d'ailleurs, la plupart du temps, faut le dire, mais enfin bon, c'est extraordinaire quand même. Mais bon, vous avez des gens qui se contentent de regarder déjà ces gens. C'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est fantastique. Aujourd'hui, vous savez, c'est le 4e anniversaire... Parce qu'il y a eu plein d'anniversaires, vous avez entendu, là, aujourd'hui, les anniversaires. Ben, c'est aussi un anniversaire. Pour moi, ça fait 4 ans aujourd'hui que j'ai été opéré à cœur ouvert. 4 ans. On a sorti, là, à l'hôpital Saint-Joseph, à Paris, ils ont sorti mon cœur de ma poitrine, ils ont pété 2-3 côtes au passage, ils l'ont posé sur une table, ils ont réparé, ils ont enlevé un bout d'aorte, ils en ont mis une en téflon, je pense qu'ils ont dû découper dans une poêle. Et ils l'ont remis à sa place et je suis encore là. J'avais plus que 5 ans à vivre au maximum, m'avait-il dit. Donc, si vous voulez, s'ils n'avaient pas fait cette opération, j'aurais plus qu'une année à vivre. Merci au cardiologue Monsieur Dupuis de Dreux qui a détecté cette malformation dont j'étais. C'était une malformation congénitale, mais c'est extraordinaire, c'est fantastique ce qu'on vit aujourd'hui. C'est magnifique, non? Merci pour la sagesse des hommes. Merci à la science qui me dépasse, qui m'émerveille. Mais il n'y a pas que ça. Bon, ça c'est déjà pas mal. Mais il y a plus encore. Il y a encore plus. Il y a celui qui a créé cette intelligence pour qu'on arrive à se soigner, à s'opérer, à faire des choses si merveilleuses. Souvenez-vous. Maintenant, on va revenir un peu en arrière du temps de Moïse. Quand Moïse a reçu l'ordre de construire le tabernacle. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il l'a construit selon le modèle de ce qu'il a vu dans l'autre dimension. Le tabernacle existait déjà dans l'autre dimension et Dieu a soulevé un coin du voile et Moïse a vu et il l'a construit à l'identique sur terre avec des matériaux terrestres. Mais il l'a vu de l'autre côté. Il l'a vu avec sa foi, c'est-à-dire avec ce que les yeux ne peuvent pas voir. Vous me direz, oui, bon, enfin, ça, faut le prouver. Bon, d'accord. Si vous y croyez pas, c'est pas grave. Vous pouvez encore m'écouter, je n'ai pour 10 minutes, 20 minutes. Écoutez la suite pour ceux que ça intéresse. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dispensation. Nous sommes plus du temps de Moïse, c'est différent maintenant. Ce n'est plus sur terre que le sacré est construit. Il est construit dans l'autre dimension. Jésus a dit, je vais partir dans cette autre dimension et je vais vous construire une demeure dans la maison de mon Père. Jésus construit dans l'autre dimension, il le prépare pour nous, il prépare quelque chose pour nous, une demeure. Et par notre foi, nous sommes en train de vivre les prémices de ce que nous vivrons quand nous prendrons possession de notre maison spirituelle dans l'autre dimension, c'est-à-dire au ciel. Alors j'explique ça mieux. Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Nous ne serons donc pas tous logés à la même enseigne. Et Jésus dit qu'il est parti pour aller nous préparer une place. La place qu'il nous prépare, mes frères et sœurs, est à l'image de ce que nous sommes et de ce que nous faisons ici-bas. Il est dans l'autre dimension, il soulève le voile et il regarde et il construit dans l'autre dimension ce qu'il voit que nous construisons ici-bas sur terre. La chose est inversée. Vous voyez, pour Moïse, on construisait sur terre ce qu'il y avait au ciel. Maintenant, c'est inversé. Il est construit au ciel ce qui se fait sur terre. Vous voyez la chose? Qui avait déjà vu ça? La place qu'il nous prépare est à l'image de ce que nous sommes en train de construire et de ce que nous sommes en train de faire selon notre comportement. Nous sommes ici-bas le modèle qui sert à la construction de ce que Jésus nous prépare au ciel. Moi, je vous dis, il y a des Africains qui vivent dans des cases, qui se comportent d'une manière si digne et si sainte que quand ils arriveront au ciel, ils habiteront une demeure dans le genre de Versailles. Puis vous avez des gens qui vivent dans des châteaux ici en Europe et qui se comportent d'une façon si dégueulasse que quand ils arriveront au ciel, ben, ils auront une case. C'est une image. Hein. C'est une image. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quel soin mettez-vous à remplir votre vie? Quel soin mettez-vous à remplir votre existence terrestre? Quand vous rencontrez une difficulté, par exemple, est-ce que ça affecte votre élan à construire d'une façon correcte? Est-ce que vous dites, je suis découragé, alors non, là, c'est pas possible. Ou est-ce que vous continuez à construire sans cesse selon les principes donnés par Jésus, par les prophètes et par les apôtres? Souvenez-vous, on va faire une petite lecture. C'est dans Néhémie. Néhémie, chapitre 4, verset 17. J'aime bien Néhémie parce qu'il y a mon nom dedans. Vous saviez qu'il y avait mon nom dans le livre de Néhémie? G-E-N-T-O-N. Mais ce n'est pas dans cette version, c'est dans la version de la Vulgate. Néhémie 4, 17. Ceux qui bâtissaient la muraille, à Jérusalem, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Ils avaient leur arme à la main. Avez-vous toujours vos armes à la main? Vous construisez votre vie professionnelle, votre vie de famille, votre vie morale, votre vie physique. Comment? Avec vos deux mains humaines ou avec une main armée et puis l'autre pour faire le travail? Est-ce que vous déposez vos armes pour construire votre vie de famille en disant « Non, moi je vais très bien pouvoir le faire, j'ai pas besoin des armes de Dieu pour construire ma vie de famille, je peux très bien me débrouiller moi-même » ou votre vie professionnelle ou votre vie relationnelle, comment? Avec Dieu ou sans les armes de Dieu? Vous faites comment? Si vous pensez pouvoir construire sans les armes que Dieu vous a données, vous allez être détruit et puis ce que vous construisez sera aussi détruit. Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Oui, monsieur, oui, madame, au 21e siècle, je crois encore au diable. Si je crois en Dieu, je crois au diable, il existe. Mais j'ai des armes contre lui. Et Paul continue en disant, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire on n'a pas à lutter contre des gens. Mais contre des dominations, des autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 11, 12. Alors il faut avoir la foi pour croire que les luttes que nous avons sont d'ordre spirituel et démoniaque et non pas simplement humaine. Les gens qui évoluent au premier degré dont je vous parlais, comment ils font? Ils luttent les uns contre les autres, n'est-ce pas la vérité? Ils luttent les uns contre les autres, dans les familles, dans les immeubles, au travail, à l'échelle mondiale. Ils luttent les uns contre les autres et ils ont des armes. Les gens qui évoluent au deuxième degré, qui sont nés de nouveau, comment ils font?
Eh bien, ces gens-là, au deuxième degré, ils commencent seulement, à partir de la nouvelle naissance, ils commencent seulement à comprendre que les problèmes ne sont pas que ce qu'ils semblent être, mais qu'il y a une origine spirituelle derrière. Mais ils commencent seulement à comprendre. C'est seulement sous le troisième degré qu'on prend les armes. Vivons au troisième degré. Paul nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le jour mauvais. Parce que le jour mauvais, il n'y a pas que des beaux jours, hein? Afin de résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que vous avez des gens super, ils ont vaincu le diable une fois, ils sont tout contents, ils posent les armes, ils disent, bon, ben maintenant, ça va. Ben non, ça va pas. Ils dorment pas, hein? Les démons dorment pas. Je suis allé voir Twilight. Vous savez, le film fait par la mormone, là. C'est génial. Il y a plein de messages chrétiens là-dedans. Et il me dira, ah bon, ça parle de vampires et de loups-garous. Ouais, bon, ben ça, oui, vous pouvez le voir comme ça, c'est vrai. Mais il y a plein de messages chrétiens là-dedans. Cette femme est mormone, elle aime Dieu. À un moment donné, ils disent, les vampires ne dorment jamais. Les démons ne dorment jamais. Le diable ne dort jamais. Et vous dites, ah ben j'ai vaincu maintenant, ça va, je peux poser les armes. Ça y est, je suis bien installé là, c'est bien. J'ai une famille, j'ai un travail, j'ai une bonne voiture, j'ai tout ce qu'il faut. Oh, repose-toi mon âme, réjouis-toi. Malheur à toi, tu sais même pas que... Insensé. Ne déposez jamais les armes. Le diable ne dort pas. Ça ne va pas. On peut pas dire que ça va. Les esprits ne dorment pas, ils ne se reposent pas et ils attendent que vous baissiez les armes pour vous attaquer. Ils ont fait la même chose avec Jésus. Ils l'ont attaqué dans le désert et puis c'est écrit que Jésus a résisté et c'est écrit que le diable le laissa attendant une occasion plus favorable. N'est-ce pas écrit? Il a attendu. Il a attendu longtemps parce qu'elle n'est jamais arrivée cette occasion favorable parce que Jésus était toujours armé. Il se laissait pas avoir. C'était pas un passif influençable. Paul, ensuite, il décrit les armes que Dieu a données à chacun. Est-ce que vous les connaissez? Moi, j'ai fait l'armée en Suisse et j'avais une arme, une excellente arme. On devait la connaître par cœur. On devait pouvoir la démonter, la remonter, les yeux bandés. Et en quelques secondes, on avait, je sais plus, parce que maintenant ça fait longtemps, hein, c'était en 70, on me rappelle plus. En 71. Mais c'était, je devais pouvoir démonter et remonter mon arme en quelques secondes, les yeux bandés. Je devais connaître mon arme. Est-ce que vous connaissez vos armes que Dieu vous a données? Je suis sûr, si je vous demande la liste, il y en a 6. Je suis sûr que vous en connaissez 3 ou 4, pas plus. Eh ben, je vais pas vous la donner, la liste. Vous avez qu'à la chercher. Vous savez, celui qui cherche, il trouve. L'autre jour, je parlais avec un frère qui cherche, n'est-ce pas, des choses spirituelles et tout, puis, ah, j'ai dit, d'après ce que tu me dis là, t'as pas été écouter Révélation Bible, les dernières prédications. Il me dit, ah ben non, parce que tu vois, j'avais du travail, comme ci et comme ça. J'ai dit, bon, basta. Quand on cherche, on trouve, mais quand on cherche pas, faut chercher là où on trouve, faut pas chercher n'importe où. Vous comprenez? Moi, quand j'ai commencé à trouver les choses de l'Évangile, moi, les gitans, mais je leur collais au semain, je voulais tout savoir. Après, j'ai découvert Osborne, j'ai été jusqu'aux États-Unis, j'ai voulu être son ami, je l'ai fréquenté, j'ai voulu tout savoir. Quand j'ai commencé à découvrir au sujet de Branham, j'ai voulu tout savoir, j'ai bouffé les 300 sermons, qui durent à peu près 3 heures chacun. J'ai voulu savoir. Quand j'ai entendu les chorales mormones, je me suis dit, c'est beau, c'est magnifique, mais qui sont les mormons? Je suis allé voir là-bas à Salt Lake City. Je cherche, j'ai acheté leurs bouquins, j'ai lu et j'ai trié, je sais ce qu'il y a de bon, je sais ce qu'il y a de mauvais. Quand on cherche, on trouve, mais quand on cherche pas, vous savez pas que c'est les armes. Vous devez avoir des armes, Dieu vous les a données, mais vous les avez pas pris, puis vous les connaissez pas. Puis après vous étonnez que, ah ben il y a des problèmes. Vous savez, une personne intéressée fait les pieds et les mains pour trouver ce qui l'intéresse. Mais oui, si vous n'allez pas chercher vous-même vos armes, en fait, c'est que vous êtes indigne des armes que vous êtes indigne de ces armes par nature, quoi, je dirais. Le monde ne veut pas de ces armes-là. Le monde se bat avec ses propres armes, et puis regardez le résultat. Je suis bien fier de ne pas être de ce monde. C'est horrible. Ils ont inventé des armes sophistiquées, terribles. Et je ne lutte pas contre la chair et le sang. Ça veut dire je ne lutte pas contre les gens, mais contre des esprits qui manipulent les gens. De nos jours, le monde a peur. De nos jours, le monde est épouvanté. Si vous ne croyez pas, ben vous n'avez qu'à lire les journaux, vous n'avez qu'à regarder la télé, vous voyagez, vous rencontrez des gens, vous parlez, vous les regardez dans les yeux. Et puis au bout d'un moment, quand ils deviennent sincères, ils vont vous dire qu'ils ont peur. Au début, non, ils ne vont pas vous dire, mais au bout d'un moment, ils vont vous dire. Le monde a peur. La sagesse de Dieu nous fait comprendre que nous n'avons rien à craindre. La peur, elle semble venir de l'extérieur de nous. Elle semble venir. Mais Josué, chapitre 1, verset 9, nous dit que c'est nous qui nous effrayons nous-mêmes. Josué, chapitre 1, verset 9, nous dit que nous épouvantons nous-mêmes. Ce n'est pas l'extérieur qui nous fait peur. C'est nous-mêmes qui nous faisons peur par rapport à l'extérieur. Et selon l'analogie de la foi, eh bien, notre intelligence est ouverte sur l'origine de la peur. Le diable et les gens peuvent vous faire peur parce que vous êtes désarmés. Voilà pourquoi vous avez peur. Parce que vous êtes désarmés. Un disciple de Jésus ne craint pas. Non pas parce qu'il est inconscient des choses graves qui se passent, mais parce qu'il a pris les armes que Dieu lui a données. Dieu les donne, mais peu les prennent. C'est ça le problème. Il y a une arme dont Paul parle ailleurs, une septième arme. Là, il n'en parle pas aux Éphésiens, mais il en parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 14:4. Or, quand j'assiste tous les mercredis à notre réunion de prière à 5h30 du matin, eh bien, je vois que presque plus personne de la communauté se sert de cette arme-là. Presque plus personne. Est-ce que vous avez déposé cette arme? Et je voudrais savoir, j'aimerais être une mouche pour pouvoir rentrer dans votre chambre et vous regarder prier à votre hôtel privé dans votre chambre pour voir si vous utilisez cette arme. Quand on utilise l'arme 1 Corinthiens 14:4, les prières qu'on fait, quand on n'utilise pas plutôt cette prière 1 Corinthiens 14:4, les prières qu'on fait, elles sont faites au niveau du degré 2. On prie pour ceci, on prie pour cela, on est conscient, on prie de tout notre cœur, on prie avec tout notre être, c'est vrai. On fait monter vers Dieu des prières depuis le deuxième degré. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au sujet de ce que c'est que ce deuxième degré. Par contre, celui qui prie au troisième degré, au niveau au supérieur, prie avec une arme redoutable, celle de 1 Corinthiens 14:14. Vous la trouverez dans 1 Corinthiens 14:14. Ne vous le dites pas ce que c'est, vous n'avez qu'à chercher. Si vous êtes intéressé, vous chercherez. Si vous n'êtes pas intéressé, vous ne chercherez pas. Puis après, vous viendrez pleurer. Puis je vous dirai, bon, ben, on va prier pour toi. Puis voilà, c'est comme ça, c'est bien. Et dans tous les villages, il y a des toyers. Hein? Ben voilà, il en faut aussi ici. Celui qui prie au niveau 3, il prie d'esprit à esprit. Il prie par l'esprit et il prie contre des esprits. La prière intelligente, elle se fait au deuxième degré. La prière spirituelle, elle se fait au troisième degré. Ça, c'est le béaba. C'est 1 Corinthiens 14:15. C'est obligatoire. Qu'est-ce que vous faites? Il y en a, ils font même pas la prière au deuxième degré. Ils ne prient pas tous les jours. Maintenant, vous ne pouvez pas utiliser cette arme de 1 Corinthiens 14:4 si vous méprisez les armes d'Éphésiens 6. J'explique. Parce que pour pouvoir vraiment prier avec la langue de l'esprit, parlant la langue des anges, il faut tenir l'arme de la vérité. Être vrai, être intègre, pas être double. Parce que sinon, vous risquez de parler une langue fourchue. Et si vous ne tenez pas la cuirasse, si vous n'avez pas pris la cuirasse de la justice, votre prière en esprit ne vous protégera pas des traits enflammés du malin. Jamais. Pas de cuirasse, pas de protection. Ça vous fait tous penser à quelque chose. Pas de cuirasse, pas de protection, mais c'est à vous de vous revêtir. Alors, votre justice, est-ce que c'est votre propre justice? Oui, mais moi je pense que ça, c'est pas un péché. C'est ta propre justice. Ou est-ce que c'est la justice que Dieu vous a donnée? Et puis, Où vous mènent vos pas? Sont-ils zélés pour porter la paix? Sinon, méfiez-vous de l'arme de 1 Corinthiens 14. Elle pourrait très bien être du fourche-langue. Vous savez ce que c'est que le fourche-langue? La langue du serpent. Et puis vous avez un bouclier, la foi. Alors c'est facile à savoir si vous avez la foi. Si vous avez la foi, vous savez que Dieu est avec vous tout le temps et qu'il vous voit tout le temps. Et quand on croit que Dieu nous voit tout le temps, ben il y a des choses qu'on fait pas. Ça montre tout de suite si vous avez la foi ou si vous l'avez pas. Et le casque du salut qui protège votre tête. Vous savez, autrefois, on disait pas la tête, on disait le chef. C'est resté un peu dans le français, on dit un couvre-chef. Hein? Est-ce que vous avez le casque du salut? Est-ce que vous avez votre tête est-elle protégée? Ce avec quoi vous réfléchissez? Est-ce que c'est protégé ou est-ce qu'il n'y a pas de casque et le diable peut mettre son doigt dedans puis touiller dans votre cerveau? Qu'est-ce qui couvre votre chef? Qu'est-ce qui protège votre chef? C'est-à-dire, qu'est-ce qui protège ce qui commande votre être? Qu'est-ce qui protège ce qui commande votre comportement? Qu'est-ce qui protège ce qui commande votre désir de sainteté? C'est quoi qui protège ça? Votre salut, votre assurance dans le salut, acquis par le prix du sang de Jésus, c'est quand même pas rien le sang de Jésus. Et ce casque que Dieu vous donne, vous n'en voulez pas? Vous le prenez pas? Si vous avez le casque du salut, vous avez les actes qui vont avec. Vous tranchez dans le vif avec la parole de Dieu et non avec une tête déshabillée sans protection. Voilà. Vous pensez que vous pouvez prendre l'épée de la parole, mais vous n'avez pas de casque. C'est de la conscience. Mais quel chevalier ferait ça? Regardez les films de chevalerie. Est-ce que vous avez déjà vu? Ils ont un casque, ils ont pas qu'une épée. Une cuirasse, ils ont toutes les armes. Moi, j'ai l'épée de la parole de Dieu. Je me sers de la parole de Dieu. Mais c'est vrai, le salut, des fois, bon... L'épée de la parole de Dieu qui est l'esprit. C'est l'esprit. Est-ce que vous avez l'esprit? On ne parle pas en langue sans avoir pris l'épée de l'esprit qui est la parole. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui parlent en langue dans toutes sortes d'extases. Marc Crozat m'a envoyé hier un lien d'une émission télévisée qui a passé sur une télé. Et j'ai regardé ce reportage, il m'a dit c'est diabolique. Il m'a dit j'ai jamais vu quelque chose aussi diabolique. J'ai regardé, c'est hyper diabolique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les gens qui se font fister. Vous savez ce que c'est? Non? Normalement, on n'en parle pas lors d'un culte. C'est une abomination. Une abomination. Je trouve que est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Les gens qui se font fister sont des gens qui prennent du plaisir à se faire mettre le poing jusqu'au coude dans le derrière. Ça existe. Il y en a plein qui font ça. Eh bien, ces gens disent qu'ils arrivent à une telle extase qu'ils en arrivent à parler en langue. Ça vous fait pas drôle, ça vous fait pas peur, c'est démoniaque. Il y a un parler en langue qui est démoniaque, mes frères et sœurs. Le parler en langue n'est pas le signe initial que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Ça n'est pas forcément le Saint-Esprit qui vous habite si vous parlez en langue, pas du tout. Dans toutes sortes de religions qui ne connaissent pas le Saint-Esprit de Dieu, il y a des gens qui parlent en langue. La glossolalie, ça s'appelle la glossolalie en termes scientifiques. Ce n'est pas forcément un don du Saint-Esprit. Le parler en langue n'est pas le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Le signe que vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est que vous avez pris les armes de Dieu et qu'ainsi vous êtes des vrais témoins de Dieu, construisant d'une main et vous battant contre le mal de l'autre main, comme du temps de Néhémie. Comment construisez-vous votre vie? On va lire 1 Corinthiens 3, 12. On va commencer déjà par le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. J'ai posé le fondement pour plusieurs d'entre vous et vous êtes maintenant nés de nouveau. J'ai posé le fondement de la foi en Jésus-Christ, qui est le Sauveur et le Maître, qui par son sang nous a acquis un salut parfait pour si nous croyons et si nous nous comportons de manière correcte selon sa parole. Et ensuite il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, c'est le fondement. S'il n'y a pas ça, vous n'êtes pas chrétien, vous êtes religieux, mais pas chrétien. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Vous pouvez construire sur ce que j'ai posé comme fondement, à savoir Jésus-Christ, dans votre vie, mais vous pouvez construire avec du chaume, avec du foin, avec ou avec de l'or. Vous voyez, avec des choses de valeur ou avec des choses sans valeur. Vous voyez le songe de Dominique. Qu'est-ce que vous prenez dans votre vie? Les choses de valeur ou les choses qui n'ont pas de valeur, mais qui coûtent cher quand même? Qu'est-ce que vous prenez dans votre vie? Avec quoi vous construisez? Car le jour, la lumière, la fera connaître. Quoi donc? La façon de construire que vous avez eue. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Chacun. On pense toujours que le jugement, c'est pour les méchants. Hein, ta-ta-ta. C'est pour nous aussi. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Oh, Jésus me construit une demeure dans la maison du Père. Oui, et il se sert du modèle que vous construisez ici-bas, avec les matériaux que vous utilisez ici-bas. Pensez-y. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est un évangile simple, mais c'est pas un évangile pour les simplets. C'est pas un évangile pour les passifs. C'est une bonne nouvelle pour les gens de bonne volonté qui ont des outils dans une main pour construire leur vie personnelle, leur famille, leur profession, leur vie spirituelle et qui ont des armes dans l'autre main pour se défendre. Et des armes qui sont aussi des armes offensives. Le chrétien n'a pas à se laisser influencer par le monde. Il n'a pas à se laisser influencer par le mal. Il se bat avec l'assurance d'être vainqueur. Et nous sommes tous responsables de vivre ainsi, avec des outils et des armes à la main. C'est pas une vie rigolote. C'est pas la vie comme celle des païens qui se battent les uns contre les autres. C'est une vie spirituelle sur un autre niveau. Mais cette vie spirituelle, elle a une autorité réelle, elle a un pouvoir réel dans ce monde-là, dans ce monde de la matière. Nous avons un pouvoir là, ici-bas, le pouvoir de vivre comme Jésus veut que nous vivions. Et Jésus dit, si vous faites cela, vous manquerez de rien. Si cette vie, avec ses règles, est respectée. Vous savez, la muraille de Jérusalem a été reconstruite par une équipe. C'est pas un bonhomme tout seul qui a construit. C'est pas une bonne femme toute seule qui a construit. C'était une équipe. Et nous sommes une équipe. Alors, ne trahissons pas l'équipe en ne construisant pas. Ne trahissons pas l'équipe en refusant de prendre les armes. Ne trahissons pas l'équipe en disant: il y en a d'autres qui le feront pour moi. Moi, j'ai décidé que, j'en ai assez fait jusqu'à aujourd'hui. Ou quoi que ce soit d'autre de faux. Lisez l'histoire d'Israël, mes frères et sœurs. C'était un peuple au cou raide. Rien ne vous oblige à avoir un cou raide. Je suis juif. Je n'ai pas un cou raide. suis pas obligé d'avoir un cou raide. Je suis souple. Je suis souple au point de pouvoir m'humilier devant mon Dieu quand j'ai tort. De pouvoir. Parce que vous savez, si vous n'êtes pas souple, vous connaissez la fable du roseau, hein? Ben, si vous n'êtes pas souple, ben, vous serez brisé. Tac! Soyez souple, vous inclinant devant la sagesse de Dieu. Soyez souple. Ce que Dieu veut pour vous, c'est le bien. Dieu vous aime et c'est pour ça qu'il vous responsabilise. Il ne veut pas faire de vous des assistés dont il prend soin sans arrêt à n'importe quelle condition. Non. Notre salut n'est pas un salut inconditionnel. C'est faux. Nous avons à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Que Dieu nous garde et que nous puissions nous souvenir de la vision que notre frère Dominique nous a donnée, parce qu'elle est très importante. Que Dieu te bénisse, mon frère, et que Dieu nous bénisse chacun. Amen. Merci Jésus. Aide-nous dans cette journée d'anniversaire, de faire de cette journée d'anniversaire un nouveau départ, s'il y a besoin, pour prendre les armes que tu nous donnes, prendre les outils que tu nous donnes, travaillant, nous défendant, avec des armes défensives, mais aussi avec des armes offensives contre le mal. Merci Jésus pour tout cela. Merci Seigneur d'avoir fait de nous des hommes et des femmes avec une intelligence renouvelée par ton Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Amen et Amen.